perkeleen tontot!
Hello, bienvenue sur Bac FM 106.1, je vais y arriver, bienvenue sur l'émission Check Me Load, c'est le retour de votre émission métal en ce vendredi 2 mars après une petite semaine de congé. Et alors il n'y a pas eu un très très grand nombre de sorties durant cette période, il y en a quand même eu quelques-unes. Pour aujourd'hui, j'ai seulement un album notable à vous proposer, mais on va revenir sur quelques petites choses qui sont parues les semaines précédentes. Et puis surtout, tout à l'heure, dans un petit peu moins d'une demi-heure, je vous proposerai une interview avec un groupe de sludge metal qui nous vient de région parisienne, qui s'appelle Red Mourning. On avait déjà écouté des extraits de leurs précédents albums. Et là, j'aurai donc le plaisir d'avoir un des membres pour parler du nouveau disque qui est sorti il y a à peu près un mois. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez la rubrique Sortez Cover. On reviendra sur une reprise en version métal d'un morceau qui ne l'était pas à l'origine, même si ce sera quand même un morceau plutôt rock. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais donc, voilà, j'évoquais l'interview de Red Mourning d'ici un petit peu moins d'une demi-heure. Donc je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance tout de suite. Je vais vous faire découvrir un extrait de ce nouvel album. Juste avant, quand même, vous dire quelques mots à propos du groupe. Alors, on pourrait les croire tout droit venus du sud des États-Unis, tant leurs influences y sont ancrées. Pourtant, c'est bel et bien dans notre capitale parisienne que le combo a vu le jour en 2008 et forge depuis un southern metal unique qui fusionne groove metal, hardcore, avec des influences bluesy, gospel, bluegrass, country, apportées par des instruments comme l'harmonica, les steel guitares, le piano, et j'en passe. À travers sa musique, Red Mourning, dont le nom fait référence aux esclaves noirs du delta du Mississippi, dont le rouge était la couleur du deuil, eh bien nous transporte dans la moiteur poisseuse des bayous et des bas-fonds de la Nouvelle-Orléans. Après Time to Go en 2008, Pregnant with Promises en 2010 et l'excellent Where Stone and Water Meet en 2014, Red Mourning a fait son retour le 5 février avec Under Punishment's Tree, un quatrième album produit comme ses prédécesseurs par Francis Cass, qui est donc ce nouvel album jusqu'à ce jour le disque le plus organique du combo. La reprise est difficile, hein. Et donc, ce qu'il nous propose cette fois-ci, c'est une évasion sonore inexorable entre folie moite et lumineuse souffrance. Voilà, on les retrouvera tout à l'heure en direct pour une interview, enfin du moins un des membres. Mais voilà, on se met dans le bain tout de suite avec un extrait de Under Punishment's Tree. Le morceau s'appelle Dying Days et c'est tout de suite sur Bac FM.
Oh,
C'était Red Morning sur Back FM avec un extrait du nouvel album. Album qui s'intitule, je le rappelle, Under Punishment 3. Quatrième album du groupe qu'on va retrouver tout à l'heure sur Back FM pour une interview, pour une présentation un peu plus détaillée du groupe et bien sûr de ce nouvel opus que je vous conseille bien évidemment qui s'appelle Dying Days. On en réécoutera bien sûr un extrait tout à l'heure quand on aura un des membres avec nous. Allez, on passe aux sorties du moment et j'ai donc une seule sortie pour ce 2 mars, c'est mais pas des moindres puisque c'est le nouvel album de Michael Schenker avec un nouveau projet qui s'appelle Michael Schenker Faced et un album qui s'appelle Resurrection, un album vous allez voir qui porte très très bien son nom. Alors avant de parler de ce nouveau projet du virtuose de la guitare allemand, faut quand même rappeler que c'est au sein de Scorpion, groupe créé par son illustre grand frère Rudolf Schenker, que Michael fait ses débuts en 69, avant de rejoindre en 73 le groupe de hard rock britannique UFO, dont il va devenir un des membres emblématiques. Après un retour raté dans Scorpion en 79 à cause de son alcoolisme et de son instabilité, le tumultueux guitariste va finalement décider de créer son propre groupe MSG, avec lequel il va sortir quelques belles pièces dans les années 80, mais aussi une série d'albums beaucoup moins glorieux dans les années 90 et le début des années 2000. À cette époque-là, Schenker est pour le moins moribond et on donne, pour dire vrai, pas cher de sa future carrière. Pourtant, à l'étonnement de tous, eh bien, il va faire un retour des plus inattendus en 2011 avec un projet qui s'appelle Michael Schenker's Temple of Rock, avec lequel il va enregistrer 3 bons, voire très bons albums, 2 live aussi. Et à ce propos, je vous conseille d'aller jeter une oreille sur Spirit on a Mission, qui était paru en 2015 et qui était vraiment une très belle réussite. Et puis, décidément, notre cher Michael semble être dans une forme olympique, dans une belle forme olympique ces derniers temps, puisque le revoilà avec encore un nouveau projet, Michael Schenker Faced, avec lequel il sort aujourd'hui donc cet album Resurrection. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est la meilleure production du guitariste teuton depuis au moins les années 80, donc vous voyez, c'est quand même assez significatif. Il faut dire que notre homme s'est entouré d'un casting de premier choix pour ce nouvel opus, puisque côté musicien, on retrouve le bassiste Chris Glenn, qui l'a déjà accompagné en live, le batteur Ted McKenna, qui est un ex-MSG, le guitariste clavier Steve Mann, qui lui avait participé au projet Macaulay Shunker Group à la toute fin des années 80. Et d'ailleurs, puisqu'on évoque Robin Macaulay, eh bien lui fait partie des chanteurs qui sont présents, avec trois autres vocalistes qui ont compté d'ailleurs dans la carrière de Shunker. Il y a Gary Barden et Graham Bonnet, donc deux ex-MSG, et puis Dougie White, le vocaliste du projet Michael Shunker's Temple of Rock. Et puis enfin, impossible de pas souligner la présence d'un guest d'exception en la personne de Kirk Hammett de Metallica, qui vient livrer un duel guitaristique dantesque avec le guitariste allemand. Donc avec Resurrection, Michael Shunker renaît définitivement de ses cendres. Cette fois, l'album est inspiré, varié, réussi, enthousiasmant. Les fans de hard rock pourront se régaler d'hymnes assez imparables, parfaitement exécutés, comme c'est le cas par exemple du morceau Warrior qu'on écoute sans plus tarder dans Check Melod. If you open the book, turn the page, take a look, find the truth right between the lines. Read the story in one, how it all just begun. Well, admit, it's one of a kind. Give him protection with love and affection, standing with honor and pride. Every now, every then, we'll be always the same. Born to follow, walk a fine line. We'll be right back. Michael Schenker sur BikeFM 106.1. Vous êtes toujours dans l'émission Metal, Check Me Load. Michael Schenker, son nouveau projet s'appelle Michael Schenker Faced. Le nouvel album, enfin premier album issu de cette nouvelle aventure, c'est Resurrection. On vient d'écouter le titre Warrior. Ça sort aujourd'hui, c'est donc disponible. Si vous avez fait partie de ceux qui l'ont aimé au sein de UFO, au sein de Scorpion aussi, ou de MSG, allez-y, l'album est vraiment très très bien. Il est super inspiré en ce moment, pourvu que ça dure, et on a l'impression qu'il a la vie devant lui, alors que en fait il doit avoir pas loin de 60 ans, Michael Schenker. Rien que son frère, j'ai été assez effaré de constater qu'il allait avoir 70 ans très bientôt. Et vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant tout ça. Allez, on passe à une autre sortie qui date d'il y a quelques semaines, puisque ça date du 9 février, d'un nouveau projet qui s'appelle Legend of the Seagullmen. L'album s'appelle pareil. Alors, faut que je vous explique un petit peu ce que c'est que Legend of the Seagullmen. C'est un projet qui a pris naissance, on va dire, à Los Angeles. C'est pas un groupe ordinaire, puisque c'est un projet musical qu'on pourrait qualifier un petit peu de All-Star Band ou Super Groupe, puisque il réunit, accrochez-vous quand même, Brett Hinds, le chanteur-guitariste de Mastodon, et Danny Carey, le batteur de Tool. Alors, ils sont pas tout seuls, hein, puisqu'avec eux, il y a un bassiste qui s'appelle Pete Griffin, qui a joué notamment dans la tournée Zappa Plays Zappa, qui a joué aussi dans le groupe de death metal virtuel Dayslock. On retrouve aussi un chanteur qui s'appelle David Dreyer D. The Doctor, un clavier qui s'appelle Chris Di Giovanni, un guitariste qui s'appelle Tim Dawson, et puis dans le groupe il y a également un certain Jimmy Edwards qui lui est animateur, scénariste et réalisateur de films animés. Il travaille par exemple pour Pixar. Alors quelques films sur lesquels il a bossé, il y a Toy Story, Monstres et Compagnie, Le Monde de Nemo, hein, pour les connaisseurs. Alors vous allez me dire, que vient faire un réalisateur d'animation dans cette histoire de musique? Eh bien en fait, il se trouve que Legend of the Seagullmen, c'est un projet qui veut réunir pour le coup cinéma et musique à travers un rock metal psychédélique aux dimensions épiques et progressives que le groupe définit lui-même comme étant du nautical rock and roll. Voilà, pour vous faire un petit peu une idée. Ils avaient déjà dévoilé quelques titres dès 2015, ils avaient pas mal attisé la curiosité des médias, et la surprenante formation sortait enfin, donc début février, son très attendu premier album éponyme. D'ailleurs, si The Legend of the Seagullmen était attendu, c'était surtout au tournant, hein, faut bien le dire, puisque le concept du projet avait laissé perplexe pas mal de monde. Eh bien, j'ai envie de dire que les mauvaises langues s'étranglent avec leur venin, puisque ce premier concept album signé des hommes mouettes, c'est une vraie belle réussite. Le groupe a fait quand même l'ambitieux pari de faire le grand écart entre la perplexité, faut que j'évite d'utiliser des mots compliqués comme ça, hein, de son concept et puis la facilité d'accès à ses compos, et il le fait certes avec un peu de grandiloquence mais aussi avec brio, sans jamais tomber dans le too much, donc ça c'était assez difficile à faire. Les morceaux sont efficaces, pas trop longs, là encore une fois c'est des morceaux inspirés. Alors quant à l'histoire, là c'est un petit peu plus compliqué, elle nous propose une espèce de western spaghetti space opéra qui se déroule en pleine mer. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais faut aller vous intéresser pour bien comprendre le truc. En tout cas, l'album pourra plaire à un auditoire assez large, assez varié, un auditoire qui va des fans de Primus, des Melvins ou de Rush, jusqu'aux fans, bien sûr, de Tool, de Mastodon. On écoute tout de suite Legend of the Seagullmen, et le titre s'appelle The Fogger. c'était les Legend of Siegelman. C'était Legend of Siegelman sur Bike FM. Ils m'ont pas laissé le temps de terminer. Enfin, c'est eux qui n'avaient pas terminé. Avec The Fogger, un extrait de leur premier album qui est paru le 9 février. Projet qui réunit notamment, je le rappelle, Brett Hines, chanteur-guitariste de Mastodon, et Danny Carey, batteur de Tool. Legend of the Siegelman sur Bike FM 106 points dans l'émission Check Me Load. Voilà, je sais plus si j'ai rappelé que le titre qu'on venait d'écouter c'était The Fogger, mais il me semble que oui. On attend d'ici quelques minutes l'interview avec le groupe Red Morning pour son nouvel album. En attendant, je vous propose une petite nouveauté qui date du 7 février, un groupe qui s'appelle Way of Changes, qui nous vient de Suisse, de Lausanne. L'album s'appelle Reflections. Alors le groupe, il a vu le jour en 2014, c'est du metalcore. Ils avaient sorti un premier EP intitulé Honesty, l'année de leur formation, 2014. Et aujourd'hui, c'est leur premier véritable album qui est dans les bacs. Alors, on retrouve dans cette nouvelle production le metalcore puissant du quintet suisse qui se caractérise par des breaks massifs, des riffs catchy, des refrains vachement entêtants, accrocheurs, mais aussi par une grande sensibilité dans les paroles avec des textes plutôt engagés. Il faut également souligner l'excellente production dont bénéficie Reflections, qui est vraiment à la hauteur du talent de Way of Changes, qui s'impose d'ores et déjà comme une formation les plus prometteuses de la scène metalcore du moment. D'ailleurs, côté live, le groupe s'est déjà forgé une très belle réputation, une réputation très solide, puisqu'ils ont déjà partagé la scène avec des poids lourds comme B90, Dagobah. Voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment. Voici un extrait de Reflections, le premier album de Way of Changes. On écoute tout de suite un titre qui s'appelle Trust.
You are my time, my fate.
tous les vendredis, le métal fait son show sur Bac FM. Vous êtes dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter Way of Changes, groupe qui nous vient de Suisse. Le morceau s'appelle Trust. L'album s'appelle Reflections. C'est paru le 16 février. C'est un album que je vous conseille, bien évidemment. Et comme je vous l'avais promis tout à l'heure, le moment est arrivé. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien du groupe Red Morning. Bonjour Sébastien.
Bonjour Etia, bonjour à tous.
Comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Une bonne journée, à la fois d'interview et de discussion avec plein de gens intéressants, donc ça va très bien.
Eh ben super, oui, il faut préciser pour nos auditeurs qu'aujourd'hui vous êtes en journée promo, donc c'est un petit peu des interviews à la chaîne, hein, c'est ça ?
Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est très bien, ça se passe très bien.
Eh ben en tout cas, merci d'être avec nous dans l'émission Check Me Load. Donc aujourd'hui, tu es avec nous, bien sûr, pour nous présenter le groupe, mais aussi votre nouvel album qui s'intitule Under Punishment Tree, un album qui est paru le 5 février. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans les détails et de s'intéresser à cette quatrième production, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec Red Morning. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le groupe et nous raconter quel a été votre parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui?
Eh ben, alors Red Morning, c'est un groupe qui existe depuis 2003, un truc comme ça, avec des petites démos et un premier album qui est sorti en 2008 avec le gros de la formation actuelle. Donc le but du jeu, c'était de faire un truc un peu original avec toutes les influences qu'on avait, qui allait du blues, rock progressif jusqu'au grindcore, voilà quoi, à peu près.
Ouais.
Donc avec que 4 musiciens qui avaient des influences très différentes. Et puis voilà, on a tout de suite eu un accueil assez sympa, notamment avec une participation au Hellfest en 2008, directement avec le premier album. Donc ça nous a bien motivés pour continuer, donc on a continué jusqu'à aujourd'hui, avec dernièrement des petits changements de line-up qui ont fait que voilà, le groupe a un peu évolué, mais en gardant toujours cette racine avec une grosse influence quand même blues, en intégrant des éléments donc de ce style, avec de l'harmonica, de la slide guitare, quelques nappes de synthé, ce genre de choses, quoi.
D'accord. Bah, on va y revenir justement sur votre style musical. Tu nous parlais d'une évolution de line-up, là. Et je crois que vous avez accueilli il y a pas très longtemps un nouveau guitariste, c'est ça, qui s'appelle Alex?
Oui, c'est ça, en fait. Donc, il y a à peu près 2 ans et demi, on a notre guitariste fondateur, donc, qui a décidé d'arrêter. On a enregistré le dernier album avec Julien, il était également guitariste d'un autre groupe qui s'appelle Gearblood.
D'accord.
Et, lui aussi nous a quittés récemment pour des changements de vie, enfin voilà, des raisons personnelles. Et il nous a présenté le deuxième guitariste de son autre groupe, donc, qui aimait bien ce qu'on faisait et avec qui, voilà, on continue désormais. Donc, le dernier album, on l'a enregistré avec Julien, donc, et on est maintenant avec Alex, donc notre nouveau guitariste avec qui on bosse pour le nouveau set.
D'accord, très bien.
Donc voilà.
Alors tu entends un petit peu parler déjà, mais musicalement parlant, Red Morning, c'est un groupe tout à fait singulier dans le paysage métal français, puisque vous nous proposez un soul sound metal où on trouve du hardcore, du groove metal, du death, et toutes ces influences rencontrent des sonorités, comme tu disais, qui viennent du blues, la country, du gospel, avec l'utilisation des instruments que tu as cités tout à l'heure. Vous avez tous des influences. Enfin, est-ce qu'il y a des influences que vous avez en commun, ou chacun a vraiment son identité et un style particulier dans ses influences?
On va dire que on a tous une telle variété d'influences qu'on forcément on se retrouve sur quelques trucs.
Ouais.
Les grosses influences hardcore et blues, c'est vraiment notre chanteur, j'y sais, non seulement parce que les thèmes qu'il aborde dans ses chansons sont souvent proches des thèmes abordés par les musiciens de blues. Et puis là, une tessiture de voix qui rappelle souvent des intonations un peu blues. Mais après voilà, enfin, lui il est vraiment fan de hardcore, de blues. Notre batteur va être plus fan de métal, on va dire moderne, à la texture, ce genre de choses. Et moi, ça va plutôt être des trucs un peu old school, mais ça peut être aussi de la variété française. Et Alex, qui est le plus jeune de tous, a une influence encore plus vaste que nous tous réunis. Donc voilà, c'est forcément on arrive à trouver des points communs, mais ça donne parfois lieu à des discussions assez tendues pour intégrer tel ou tel élément dans la musique. Mais en tout cas, oui, le but du jeu, c'est d'essayer de faire un truc un peu digeste et un peu original. Quoi.
Bah justement, d'ailleurs, de toutes ces influences, vous avez réussi à créer une véritable identité, un véritable univers, puisque depuis votre premier album, bah, vous nous plongez un petit peu, j'ai envie de dire, dans la moiteur des bayous, des bords du Mississippi. D'ailleurs, le nom du groupe fait référence à la couleur du deuil des esclaves. Alors, outre la culture musicale, qu'est-ce qui vous attire vers ces états du sud de l'Amérique ?
Alors c'est pas franchement le sud de l'Amérique, mais bon, c'est vrai qu'on est forcément bercé par la culture anglo-saxonne, voire carrément américaine, parce que il y a quand même pas mal de gros groupes de métal influents dans le coin.
Ouais.
Que ce soit Pantera, Metallica, etc. Enfin voilà, on les connaît tous, hein. Je sais pas trop si c'est vraiment le sud des États-Unis, mais c'est plutôt l'influence, oui, du blues et de la cette espèce de mélange d'espoir et de désespoir, en fait, de douleur et de... Oui, je sais pas, c'est d'abord un peu sombre de la musique, qui pour nous se mélangeait bien avec le métal. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une attraction spéciale pour le sud des États-Unis.
D'accord.
Ou plutôt un certain penchant pour les musiques un peu violentes et sombres. Quoi.
Alors justement, on va parler du nouvel album, Under Punishment's Tree. Comme à chaque nouvel opus, votre musique évolue, bien évidemment, vous expérimentez de nouvelles choses. Moi, ce qui m'a le plus frappé sur ce nouvel album, c'est que j'ai trouvé les compos peut-être un peu plus brutales, plus sombres que sur Warstone and Watermeet. Et bien sûr, un autre point que vous revendiquez, il y a aussi cet aspect très organique des morceaux. Alors, vous vouliez aller dans cette direction dès la phase de compo ou c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure ?
Alors le côté organique, oui, ça c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. On essaye vraiment de faire un maximum d'aller au maximum dans cette voie-là. Après, c'est vrai que on a pas mal de retours sur la violence de ce dernier album. En fait, nous c'était pas trop notre volonté première. On avait même plutôt l'impression qu'il était un peu plus calme.
D'accord.
que les autres. Mais en y réfléchissant bien, oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus sombre. Et puis, il n'y avait pas vraiment de volonté de faire un truc plus violent que Warstone and Watermeet. On voulait vraiment faire un truc dans la continuité, mais avec quelques éléments nouveaux. Alors, probablement que le départ de Romaric et l'arrivée de nouveaux éléments, notamment Julien à la compo, et du fait que nous, on ait un peu plus pris le pas sur la compo, ça a sûrement penché dans la balance. Et c'est vrai qu'on, enfin au moins... Les trois membres du groupe, donc le chanteur JC, Aurélien le batteur et moi, on a tendance à écouter des trucs assez brutaux, donc peut-être que ça s'est fait naturellement. Mais oui, le côté dark un peu, je pense que c'est quelque chose qui nous colle un peu à la peau depuis le début. Donc voilà, c'était une suite logique. Quoi.
D'accord. Alors pour revenir justement à ce son très très organique, ce qui est assez bluffant, c'est que donc le son est certes très organique, mais en même temps vous arrivez à conserver un son très moderne.
Ouais, je pense que c'est beaucoup beaucoup dû à la batterie de Aurélien justement, qui est très 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 très, enfin pas très influencé, mais qui a un style un petit peu à la, comme je disais, texture, Mastodon,
ouais.
Des groupes un peu où la batterie est vraiment en avant. Et lui-même joue dans un autre groupe qui est vraiment un truc un peu deathcore mélodique moderne, donc vraiment avec des rythmiques un petit peu chiadées. Donc voilà, je pense que lui apporte vraiment ce côté très 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 carré, très très moderne. Et nous, en vieux briscard avec JC, je pense qu'on apporte un peu le côté plus organique, plus rock'n'roll peut-être. Voilà.
Alors, comme pour vos trois précédents albums, vous avez choisi de confier la production à Francis Cast. C'était ouais. Évident pour vous de continuer cette longue et belle collaboration ?
Oh oui, carrément, parce que c'est vraiment enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent ça de lui, mais c'est un peu le cinquième homme ou le membre supplémentaire du groupe. Il commence à vraiment bien nous connaître. Il apporte pas simplement sa touche d'ingénieur, il a vraiment une connaissance de notre musique et il sait vraiment dans où on veut aller. Du coup,
ouais.
Lui-même nous donne pas mal de pistes, même dans des idées de compo, de choses comme ça. Donc oui, c'était plus qu'évident et je pense pas qu'on s'arrête, qu'on arrête la collaboration après cet album parce que c'est vraiment, c'était vraiment naturel de bosser avec, avec lui.
Alors, on parlait tout à l'heure de, des morceaux, de la violence, des morceaux un peu sombres, mais il y a quand même, faut le signaler, plusieurs interludes bah, qui apportent quand même de l'air, voire même des moments un peu plus intimistes à l'album. J'ai trouvé une dimension presque cinématographique à l'ensemble. Moi, j'imaginerais tout à fait bien des titres comme Slow Bend, Equation ou Chain to the Bone dans la BO d'un film comme Django Unchained, par exemple. C'est quelque chose qui vous inspire, le cinéma, ou pas spécialement, en fait?
Je sais pas si ça, directement, ça nous inspire pour composer, mais effectivement, on a tous une culture cinématographique assez, assez vaste aussi, un peu comme musicale. Après, je pense pas que ça ait une influence directe. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'entendre ça parce que effectivement, c'est le genre de film qui nous plaît à tous. Et c'est plus, je pense que s'il y a cette notion un petit peu de je sais pas, d'histoire, un petit peu de cinématographie ou de scénario, c'est qu'on essaie de faire un album un peu cohérent du début à la fin, avec une certaine continuité en fait. C'est pas franchement un album concept, mais c'est un album qui voilà, qui peut s'écouter un peu d'une traite, avec effectivement des interludes pour aérer un peu la lourdeur de certains morceaux vraiment très très bourrins. Et oui, il y a un peu une histoire qui se raconte, donc oui, c'est pas totalement détaché d'une idée de scénario, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas une influence directe du cinéma sur la musique. Non.
D'accord. Bah, d'ailleurs, tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur le choix du titre Under Punishment's Tree, sur les thèmes aussi un peu que vous abordez dans ces chansons, parce que tu nous dis qu'il y a un peu quand même une histoire.
Alors, en fait, les thèmes vraiment au niveau des paroles, c'est vraiment JC, donc notre chanteur qui les trouve. Alors, il faut savoir qu'il a une double, voire une triple culture. Il est hollandais, anglo-saxon, français, donc il a pour habitude de plonger dans la littérature anglo-saxonne depuis qu'il est tout petit. Du coup, il aborde des termes un petit peu poétiques, un petit peu littéraires, qui rattachent à son histoire personnelle. Donc c'est très métaphorique, très philosophique.
D'accord.
C'est toujours relié un petit peu à des idées de souffrance, de mort, effectivement, un peu comme peut l'être le blues, des questionnements sur la vie, sur la mort, ce genre de choses. Mais on peut pas franchement trouver d'explication vraiment très concrète. Il y a vraiment une dimension philosophique et poétique dans ces paroles. Donc y mettre un sens vraiment concret dessus, c'est très compliqué.
Ok. Alors, il y a quelques jours, on a pu découvrir votre nouveau clip hein, qui illustre le morceau Dying Days qu'on a écouté en début d'émission. Est-ce qu'on peut le considérer comme étant la suite du clip de The Sound of Flies?
Alors, oui, je pense clairement que c'était comme ça qu'on voulait le faire, une espèce de continuité avec, en plus, toujours la même équipe qui était avec nous, dont Fred Sorel, l'acteur réalisateur qui bosse avec nous depuis nos tout premiers clips.
Et d'accord.
Puis, oui, effectivement, toujours cette idée un petit peu de verser dans le côté un peu bayou, un peu esclave, avec encore des approches un peu morbides de la chose. Et puis cette fois-ci, un côté un petit peu encore plus ancré dans la culture. Culture blues et les esclaves avec l'apparition du Baron Samedi, créature un petit peu mythique et emblématique de ce courant-là. Quoi.
C'est donc le clip, on peut donc le visionner sur votre chaîne YouTube, hein, je précise, pour que
Exactement. Les
auditeurs puissent aller regarder ça. Alors l'album, il est dans les bacs depuis un mois à peu près, pas tout à fait encore. Il est aussi dispo sur les plateformes de streaming, donc maintenant il va être temps de le défendre sur scène. Alors vous serez d'abord à la Boule Noire le 23 mars pour la release party avec Pitbull in the Nursery et MF Crew. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui se profilent?
On est en train de bosser avec les gars de Music Records qui
D'accord.
sont en train de nous concocter ça, donc on n'a pas vraiment plus d'informations à donner là-dessus, mais en tout cas on bosse pour essayer de refaire comme on avait fait il y a 2 ans et les années précédentes, faire des petites tournées un petit peu partout, et puis aussi pourquoi pas, et on espère fermement s'exporter un peu plus à l'étranger. On a pas mal joué en Belgique et là on essaie de viser un petit peu tout ce qui va être Royaume-Uni et Allemagne, pourquoi pas. Donc on bosse là-dessus, ouais.
D'accord.
C'est en cours. Et le 23 mars, c'est sûr, ça c'est acté.
Rendez-vous à Paris.
La boule noire avec, exactement.
Eh ben en tout cas, merci Sébastien de nous avoir accordé du temps pour nous parler de Rain Morning, du nouvel album. Je rappelle que cet album s'intitule Under Punishment Tree. Il est disponible en version physique, numérique, en streaming. On peut, je le rappelle également, visionner votre nouveau clip Dying Days sur YouTube. Et puis, bien sûr, suivre toute votre actu sur la page Facebook de Rain Morning pour découvrir au fil du temps les futures dates, etc. Et ce que je te propose, c'est de conclure cette interview en écoutant un deuxième extrait de l'album.
Avec plaisir.
Eh bien écoute, j'ai choisi le très groovy Calls of Pan. Est-ce que ça te va?
C'est parfait, ça me va très bien. Bon petit refrain gospel en plus. Donc,
ça swing.
Ok, ça marche.
Merci encore Sébastien. Et puis,
merci à toi, merci à vous.
À une prochaine interview alors.
Ok, ça marche, à plus.
Salut.
Salut.
Back FM 106.1, vous êtes dans l'émission Check Me Load. À l'instant, c'était Red Morning avec un extrait du nouvel album Under Punishment Tree avec un morceau qui lui s'intitule Calls of a Pain, un album que je vous conseille très très vivement. Red Morning, c'est un groupe que j'aime beaucoup déjà depuis un bon moment, donc voilà, ça a été un grand grand plaisir de pouvoir discuter avec Sébastien, qui est donc le bassiste du groupe, qui était avec nous en direct il y a quelques minutes, et qui, voilà, c'était cool de pouvoir parler de ce nouvel album du groupe aussi. Je vous conseille vraiment vivement d'aller découvrir, si vous connaissez pas encore leur son, ce mélange de métal et d'influence bluesy, c'est super bien foutu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est donc à découvrir, ce sera le mot de la fin pour ce nouveau Red Morning. Eh bien écoutez, il va déjà être temps de se dire au revoir, décidément en votre compagnie, le temps passe trop vite. On va terminer avec l'habituelle rubrique Sortez Cover, et je vais partir d'une petite news pour motiver un petit peu le choix du morceau du jour. Je sais pas si vous avez entendu ça en début de semaine, mais on a appris que la chanteuse du groupe Lacuna Coil, donc Christina Scabbia, allait être la nouvelle jurée et coach de la prochaine saison de The Voice. Mais attention, The Voice en Italie, hein, on se calme tout de suite. En France, je pense que c'est pas demain la veille qu'un ou une artiste issue de la scène métal se retrouvera entre Florent Pagny et Pascal Obispo. Alors, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. Et puis d'un autre, je pense que les artistes métal auraient plein de choses à apporter à ces jeunes gens qui se frottent à l'exercice du télécrochet. Enfin ça, ma foi, c'est un tout autre débat. Du coup, je me suis dit que on pourrait se faire un petit coup de Lacuna Coil à travers une reprise. Le groupe en a produit quelques-unes, dont Enjoy the Silence, du célèbre groupe de la scène New Wave Depeche Mode. C'est ce morceau-là qui va clore l'émission, dans une version métal, bien évidemment signée des Italiens. Alors quelques mots sur Enjoy the Silence du groupe Depeche Mode. La chanson sort le 5 février 1990, dont sa version single. C'est le deuxième d'ailleurs single qui sera tiré de l'album Violator, qui lui va paraître quelques semaines plus tard, le 19 mars 1990. Alors si initialement le morceau a été composé sur le modèle d'une ballade très calme, faut savoir que la démo minimaliste de Martin Elgor a été composée sur un harmonium, les autres membres du groupe, Flood et Alan Wider, vont immédiatement déceler le fort potentiel de la chanson si on accélère son rythme. Alors du coup, Gore va s'atteler à composer une ritournelle mélodique supplémentaire à la guitare, qui sera déclinée à différentes octaves, qui sache jouer également au clavier. Par contre, il va rester assez réticent quant à l'accélération du tempo. Mais au bout d'un moment, il va devoir quand même se rendre à l'évidence, puisque en écoutant la nouvelle maquette de la chanson, donc accélérée, il va se rendre compte que Depeche Mode tient avec Enjoy the Silence un hit en puissance. Alors la chanson, elle va être interprétée avec la voix grave, chaude et profonde de Dave Gahan. Ça va devenir finalement une ballade assez rythmée, mais quand même résolument sombre, dont la mélodie est quand même imparable, entêtante, voire presque envoûtante. Le succès se fera pas attendre longtemps, puisque les ventes de 45 tours d'Enjoy the Silence vont vite dépasser celles de son prédécesseur, Personal Jesus, qui était le premier single de Violator. Il était paru à l'été 89. Et donc, par exemple, Enjoy the Silence va se classer premier des charts au Danemark, en Espagne. Il va figurer dans le top 3 des ventes en Finlande, en Allemagne, en Suisse, en Irlande. Au Royaume-Uni, il se hissera à la 6e place, il se classera 9e au top 50 en France et 8e du Billboard Hot 100 américain, le meilleur score jamais atteint par Depeche Mode outre-Atlantique. On peut donc dire que Enjoy the Silence, c'est un tube, et c'est même un des plus gros succès musicaux de l'année 90. Il va rapporter au groupe un Brit Awards du meilleur single britannique de l'année. Et en 2004, 14 ans après sa sortie, la chanson va connaître de nouveau un énorme succès grâce à sa version remixée par Mike Shinoda de Linkin Park. Et puis donc, comme tout hit qui se respecte, Enjoy the Silence va être reprise un nombre incalculable de fois. Alors on en compte plus de 220 versions, me semble-t-il. Mais une des meilleures, si ce n'est la meilleure, c'est celle bien sûr signée du plus américain des groupes italiens. J'ai nommé Lacuna Coil, célèbre groupe qui nous vient de Milan. Alors le morceau, on le trouve sur l'album Karma Code, qui est sorti en 2006, qui est un des meilleurs albums du combo, moi je trouve. Cette reprise de Enjoy the Silence, version Lacuna Coil, nous propose une revisite de la chanson dans un style qui varie entre métal gothique et métal alternatif. Le titre, qui est interprété par le duo Christina Scabbia pour la voix féminine et Andrea Ferro pour la voix masculine, prend une toute nouvelle dimension, se fait à la fois plus moderne et plus puissante. Vous allez pouvoir entendre ça d'ici quelques secondes, juste le temps pour moi eh bien, de vous souhaiter un très bon week-end sur Bac FM 106.1. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Il y aura de nouveau une interview, ce sera avec le groupe Disconnected. Mais voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Je vous dis salut à tous, à très bientôt. Voici tout de suite Enjoy the Silence de Depeche Mode, revu et corrigé par la Queen A Coil.